La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. On les appelle les lanceurs d'alerte, terme qui est entré dans le langage commun. Ils désignent ces femmes et ces hommes qui cherchent à faire connaître, souvent contre l'avis majoritaire, l'importance d'un danger ou d'un risque en lien avec l'intérêt général. C'est la définition communément admise et sans contaminer. Amiante, médiateur, on doit la plupart du temps à des lanceurs d'alerte les grandes affaires qui ont marqué l'opinion. Qui sont-ils? Comment opèrent-ils? Sont-ils seuls ou en collectif? Comment sont-ils protégés? Et comment s'organise l'alerte? C'est ce que nous allons voir avec mes invités qui répondront également à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui on s'intéresse aux quantités de CO2 dans l'atmosphère.
Oui, car des chercheurs suisses et français proposent une nouvelle méthode pour prédire ces variations en étudiant, attachez-vous bien, l'eau dans les sous-sols.
Et c'est Hélène Biziot qui réalise aujourd'hui cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Qui sont les lanceurs d'alerte? Dossier donc dans un instant avec mes invités que je salue, le sociologue Francis Château-Renaud, Claire Nouvian, la présidente de l'association Bloom, et le chercheur Pierre Ménéton. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue Francis Château-Renaud. Vous êtes à l'origine en France de la notion de lanceur d'alerte. Est-ce qu'il existe différents profils au fond de ces personnes? J'en ai donné une courte définition tout à l'heure.
Oui, c'est une définition très synthétique, effectivement. Ouais. Non, il y a énormément de profils, puisque ça va des individus jusqu'aux institutions. On peut considérer que le GIEC, le groupement des experts internationaux du climat, sont des lanceurs d'alerte. En tout cas, on joue le rôle de lanceur d'alerte pendant très longtemps, jusqu'à ce que le climat soit reconnu comme une cause internationale. Donc il y a toutes sortes de profils, et beaucoup d'acteurs s'en emparent, parfois en tirant un peu la notion dans le sens qui les arrange. Mais grosso modo, vous avez bien résumé, ce qui compte c'est d'intervenir en amont, éviter que quelque chose de plus grave se produise, parfois il y a déjà des dégâts, éviter.
Et on va y revenir avec vous. Pierre Ménéton, en tant que chercheur en santé publique, vous avez lancé l'alerte il y a déjà un moment maintenant contre l'excès de sel dans l'alimentation. Est-ce que les producteurs de sel continuent à exiger des sanctions contre vous aujourd'hui?
À ma connaissance, non, heureusement.
Ça veut dire quoi? Vous êtes protégé maintenant?
Moi, ça fait 20 ans qu'on communique. Je ne suis pas tout seul, mais enfin, j'ai été en première ligne pour communiquer sur le problème de l'excès de sel dans l'alimentation. Oui. Au cours de ces années, effectivement, j'ai eu quelques démêlés avec les lobbies agroalimentaires ou des producteurs de sel. Bon, c'est resté, je dirais, relativement marginal, dans la mesure où j'ai un statut, moi, qui est un chercheur de service public, un statut de fonctionnaire d'État. Donc, si on remplit la fonction qui est de faire de la recherche, de la communiquer et de la publier, normalement, c'est quand même difficile de se retrouver
normalement,
à la rue.
Normalement, on va en parler également avec vous et on va voir que grâce à votre combat, une taxe sur le sel est à l'étude en France et c'est une première. Claire Nouvian, votre combat avec l'association Bloom concerne la protection des fonds marins. Est-ce que vous considérez comme lanceuse d'alerte? Est-ce que le statut vous va bien ou pas?
Non, en fait, on est plutôt une vigie de la démocratie, mais c'est vrai que... On fait ce pourquoi c'est notre mission, d'alerter, de connaître, d'être des experts. Donc, vous êtes fonctionnaire, chercheur, vous aussi, vous êtes chercheur. Nous, on est une ONG, donc on milite pour la protection d'un bien public. L'océan, c'est vraiment, ça appartient à tout le monde. Ça n'a aucun droit d'appartenir plus aux industriels qu'aux artisans, etc. Mmh. Donc, mais il se trouve qu'en effet, on se retrouve à révéler des scandales très souvent, puisque comme on est expert sur certains dossiers, on se retrouve face à des situations qui sont absolument pas normales et parfois illégales.
Allez, on va en discuter tous ensemble, ce rôle de lanceur d'alerte et puis les messages des auditeurs. Toutes les questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Aujourd'hui, à la une de la science, Axel, 3 publications sur le réchauffement climatique, rien que ça.
Oui, Mathieu, et toutes les 3 sont parues fin août. Elles s'intéressent au bilan carbone de la planète et on y découvre que l'eau dans les sols, dont on parle très peu, a un effet important et direct sur le réchauffement climatique.
Alors comment ça, l'eau dans le sol peut influencer le CO2 dans l'atmosphère? Qu'est-ce que vous entendez là?
Par l'intermédiaire des plantes et des arbres, Mathieu. Quand l'eau est là, les végétaux vont bien et piègent du CO2, mais quand l'eau manque, ça devient vite compliqué. Et pour en parler, nous recevons un des auteurs de ces travaux, le climatologue Philippe Siès. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Gif-sur-Yvette, spécialiste des gaz à effet de serre. Alors, cet impact des végétaux et de l'eau sur le bilan carbone, on le connaissait, mais assez mal au final. C'est un peu comme ça qu'il faut résumer vos travaux.
Ben oui, on le connaissait à l'échelle d'un site. Il y a plein d'expériences agronomiques. On voit bien que la végétation a besoin d'eau pendant sa saison de croissance. Mais on n'avait peut-être jamais réalisé l'importance vraiment planétaire de l'eau dans le sol comme réserve pour que les plantes puissent continuer à fixer du carbone. Et cette étude, en fait, ça montre que pendant les années qui sont particulièrement sèches, notamment les années El Niño, eh ben on a vraiment un déficit en eau du sol, juste au même moment où en fait la végétation pompe moins de carbone de l'atmosphère.
Alors, on dit souvent que les végétaux de la planète piègent 30% des émissions de CO2 par an. Est-ce qu'il va falloir revoir ce chiffre ou son importance dans le bilan carbone ?
Alors, si il pleut moins sur certaines régions où les plantes ont déjà du mal, on dit qu'elles sont limitées par l'eau dans le sol, oui, probablement sur le long terme, on aura moins de capacité de fixation. Mais dans l'étude, en fait, on se sert de la variation interannuelle, c'est-à-dire les années sèches, les années humides, pour essayer justement de comprendre comment l'eau du sol va contrôler, sous la forme de grandes expériences naturelles, il y a des régions qui sont plus sèches certaines années, plus humides d'autres années, comment donc l'eau du sol va contrôler la capacité de la végétation à enlever du CO2. Et on fait ça grâce à des satellites. Par exemple, des satellites qui mesurent précisément quelque chose qui est proche de l'eau du sol, qui est en fait le champ de gravité terrestre.
Oui, cette partie-là de l'étude est très intéressante. C'est comment est-ce que vous avez fait pour savoir quelle quantité d'eau il y a à quel endroit sur la planète ? Racontez-nous un petit peu cette histoire
de
satellite.
Alors oui, c'est très difficile parce que l'eau, elle est enfouie, parfois profondément dans le sol. Et puis les plantes ont des racines qui vont parfois jusqu'à 10 ou 20 mètres. Donc on ne peut pas faire des mesures sur le terrain de la quantité d'eau dont disposent les plantes. Et finalement, on se sert de satellites qui mesurent en fait la masse terrestre du point au-dessus de la Terre, au-dessus duquel les satellites passent. Mmh. Alors on voit bien sûr la déformation, la forme de la Terre, mais si on regarde les variations d'un mois sur l'autre avec cette paire de satellites, parce qu'ils sont deux, qui s'appellent GRASS ou GRACE, eh bien là on voit des changements de masse qu'on peut vraiment relier au changement d'eau du sol. Sur les glaciers aussi, on peut utiliser les mesures de GRACE, mais pour regarder les pertes de masse, c'est-à-dire la fonte des glaciers et des calottes polaires. On ne s'en est pas servi pour la glace de ces données de GRACE, mais on s'en est servi pour regarder les variations, les fluctuations ou les oscillations d'une année sur l'autre du contenu en eau dans les sols.
Alors justement, Philippe Siès, quelle est la variation à peu près du piégeage en CO2 d'un arbre issu d'un sol sec ou au contraire d'un sol humide ?
Oh bah ça, il y a bien 50% de plus ou de moins de piégeage entre une année terriblement sèche et chaude, notamment dans les régions où déjà il n'y a pas beaucoup d'eau, les régions semi-arides qu'on trouve dans les tropiques, mais aussi dans les latitudes tempérées, hein, sur le pourtour méditerranéen, en Asie centrale, dans l'ouest des États-Unis. Et donc il y a bien 50% de plus ou de moins de fixation suivant que les années sont humides ou bien qu'elles sont sèches.
Alors, Philippe Siès, à l'échelle de la planète et sur les 50-100 ans à venir, quelles sont les tendances ? Est-ce qu'on va se rapprocher de plus de sécheresse ou au contraire de plus d'humidité ?
Alors, ce que disent les modèles de climat, c'est évidemment la sécheresse des sols. Elle n'est pas contrôlée que par les pluies, mais aussi par la température et par l'humidité. Parce que c'est la température et l'humidité qui disent aux plantes combien d'eau elles vont perdre. Et donc finalement, l'eau du sol, c'est le bilan un peu subtil entre des pluies qui rentrent et puis la température, l'humidité qui contrôle les pertes par les plantes ou par les sols. Ce qu'on sait, c'est que dans les régions vraiment nordiques, polaires, l'Arctique, en principe, il va pleuvoir plus et il fera plus chaud. Les plantes ne vont pas manquer d'eau. Par contre, dans les régions sèches, Méditerranée, moyenne latitude, des régions semi-arides, par exemple d'Afrique du Sud et d'Australie, la plupart des modèles de climat nous disent qu'il va y avoir plutôt une tendance à l'aridification. Parce qu'il va faire plus chaud, ça on en est presque certain, bien sûr, sur ces régions-là. Et probablement aussi, mais les modèles sont moins d'accord entre eux sur les précipitations, parce que dans ces régions, on a aussi une tendance à la baisse des précipitations.
C'est
de bonnes raisons.
Est-ce que vos résultats doivent changer notre manière de consommer l'eau ou de gérer les territoires sur nos latitudes intermédiaires ?
Alors, nos résultats, je pense qu'ils ne nous donnent pas trop d'informations sur la quantité d'eau qui est vraiment accessible pour la gestion, les lacs, les barrages, l'eau pour l'industrie, l'eau potable, etc. Par contre, ils nous montrent bien que la végétation, pour survivre, a besoin d'eau, que sa capacité à absorber du carbone, qui est quand même un service que la végétation rend à l'humanité de manière globale, est très dépendante du contenu en eau du sol. C'est pas quelque chose sur lequel on peut agir directement, mais ça nous montre bien finalement que notre planète, dans la plupart de ses régions, il y a peu de régions humides, il y a beaucoup de régions sèches, et donc l'eau du sol, c'est vraiment une variable fondamentale pour contrôler le fonctionnement de la végétation.
Et donc du CO2 également. Merci beaucoup Philippe Siès, très intéressante étude dont vous venez de nous parler. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Gif-sur-Yvette. Bonne journée à vous.
Merci.
Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, certains trous noirs auraient la capacité de ressusciter des étoiles mortes. Selon des chercheurs américains, les forces gravitationnelles générées par les trous noirs de taille intermédiaire pourraient, dans certaines conditions, relancer l'activité nucléaire d'étoiles déjà éteintes, comme les naines blanches. Bien que ces travaux soient issus de simulations, les chercheurs estiment que ces résurrections de quelques secondes seulement sont détectables grâce aux ondes gravitationnelles ou même par certains télescopes géants. Une intelligence artificielle très efficace pour prédire les répliques après un séisme sort de d'écho qui survient jusqu'à un mois après un gros tremblement de terre. Les répliques sont une des pires craintes des sauveteurs. Des chercheurs de l'université d'Harvard ont entraîné une machine avec une base de données de plus de 130 000 séismes passés, ainsi qu'un jeu de données topographiques associées. L'algorithme s'avère aujourd'hui capable de prédire avec une précision de 85% la survenue de certaines répliques dites statiques et qui sont associées à une déformation permanente des sols. C'est un grand pas en avant, en tous les cas pour les sismologues. Et puis pour terminer, comptons les points sur le dos des coccinelles. Les motifs pointillistes arborés par ces insectes et leur nombre ont souvent été source de rumeurs scientifiques, reflet de l'âge ou bien marqueur de différences d'espèces. Que nenni, deux publications récentes, une française et l'autre japonaise, montrent que c'est bien des variations génétiques au sein des mêmes populations de coccinelles qui permettent de prédire le nombre de points sur leur dos. Les travaux français ont permis d'identifier un gène du développement dit gène panier qui, au stade embryonnaire, influence les populations de cellules pour donner les fameux points. Les lanceurs d'alerte, ils sont là dans notre studio, on en parle dans un instant.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat poussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté.
C'était la voix de Miossec à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Notre civilisation est aussi forte que ses idées sont vraies. Quand nos édifices sont érigés par les corrompus, quand nos médias sont corrompus, quand nos intellectuels manquent d'audace, quand notre histoire est emplie de demi-vérités et de mensonges, notre civilisation ne sera jamais juste, elle ne s'élèvera jamais jusqu'au ciel. Nos sociétés sont des bidonvilles intellectuelles. La puissance de personnes parlant haut et fort et résistantes ensemble terrifie le pouvoir corrompu et antidémocratique. La vraie démocratie est la résistance des peuples armés de la vérité, de la place Tahrir jusqu'ici à Londres. Chaque jour, des personnes ordinaires nous enseignent que la démocratie, c'est la liberté de parole et la dissidence. Car la vraie démocratie est la somme de notre résistance.
La voix de Julian Assange depuis l'ambassade équatorienne de Londres en décembre 2012 pour parler des lanceurs d'alerte cet après-midi. C'est le dossier de l'émission pour comprendre qui sont ces femmes, ces hommes qui, donc, dans l'intérêt général, se battent pour dénoncer un risque ou un danger. Pour en parler, donc, Francis Château-Renaud, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'EHESS, créateur, donc, de cette notion de lanceur d'alerte dans les années 90 en France. Claire Nouvian, vous êtes la fondatrice et présidente de l'association Bloom et vous avez reçu cette année le prix Goldman de l'environnement et votre action concerne la protection des océans et des espèces marines. Et puis Pierre Ménéton, vous êtes chercheur en santé publique à l'INSERM et vous vous êtes illustré dans votre combat contre l'excès de sel dans l'alimentation, combat qui commence à porter ses fruits au niveau de la législation, en tout cas on l'espère. Hein. Francis Château-Renaud, d'abord un mot sur Julian Assange. Est-ce qu'on peut justement l'inclure dans cette définition du lanceur d'alerte? Est-ce qu'il l'incarne parfaitement ou est-ce que...
Il fait plus qu'à l'incarner, il a même créé, avec en particulier Wikileaks, des outils pour favoriser en fait les lancements d'alerte. Donc c'est presque un méta lanceur d'alerte. Ouais. En fait. Après, c'est un personnage compliqué, comme tous les personnages publics. Hein. Je pense que personne n'échappe à cette règle. Dès qu'on devient un enjeu public, qu'on fait des alliances, des coalitions, on se retrouve pris dans des jeux de force. Moi, je crois beaucoup à cette idée que les alertes ne sont pas rousseauistes. Hein. Elles créent et traversent des champs de force. Et donc on se crée des ennemis, on se crée des alliés. Parfois les alliés qu'on a sont pas forcément ceux qu'on voulait. Et donc Assange est dans cette figure-là. Donc je sais qu'il y a des gens qui le contestent, qui critiquent beaucoup ses actions. En même temps, Wikileaks, ça a quand même été quelque chose qui a créé le leak. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez général. Hein. Les Panama Papers, hein, tout ce qui a suivi, en fait, ça, c'est un mouvement qui s'est créé avec le numérique. Et bon, c'est quand même une figure importante.
Claire Nouvian, Julian Assange, lanceur d'alerte pour vous
alors,
ou pas?
Il faut toujours faire attention quand on parle d'Assange parce qu'il y a des gens qui sont ultra spécialistes d'Assange. Alors si vous dites un truc, vous êtes attaqué. Hein. Bon, il y a quand même une école très libertarienne avec Assange, hein, qui est de dire on n'est pas dans une vraie démocratie s'il n'y avait pas une totale transparence. Et donc, ça pose quand même la question de, est-ce que la transparence totale est bonne, hein. On a opposé à Assange le fait que, quand même, quand il publiait les câbles diplomatiques de la guerre en Irak, etc., il mettait en danger des informateurs qui avaient quand même, qui étaient des personnes du bon côté, on va dire, entre guillemets. Et donc, ça pose ces questions-là. Donc, en effet, méta lanceur d'alerte, je trouve que c'est un bon terme pour lui, ça met tout monde d'accord, mais c'est sûr qu'il est allé très très loin. Cette transparence totale pose question et c'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais pourtant c'est une question fondamentale de la démocratie. On voit bien qu'on est quand même en déficit de transparence.
Alors ça, on est au cœur du sujet là pour le coup.
Là on est vraiment au cœur du sujet quand on voit le déficit de transparence. Et même si nous par exemple on travaille sur la pêche, les océans, etc., c'était une porte d'entrée pour rentrer dans des systèmes politiques et des systèmes de production de savoir qui sont très orientés et orientés parce que évidemment les pouvoirs politiques sont assiégés par des pouvoirs économiques. Aujourd'hui, avec la guerre des lobbies, ça y est, on parle des lobbies à tout va avec la présence de Thierry Coste à la fameuse réunion la semaine dernière.
Ouais. Mais évidemment, ça, c'est peut-être une vertu du départ de Nicolas Hulot, en tout cas dans ses déclarations, c'est d'avoir parlé clairement des lobbies aussi. Hein.
Oui, c'est ça, mais ce qui est fou, c'est que pourquoi a-t-il fallu attendre autant de temps pour en fait rendre compte de ce que chacun sait, c'est-à-dire que oui, les lobbies assiègent le pouvoir et les administrations, qui est une culture qui est vraiment, on va dire, consanguine entre les administrations et les intérêts industriels ou économiques qui sont représentés de longue date, vous voyez. Et il faut réinventer tout ça. C'est un grand sujet de démocratie et c'est très actuel.
Absolument. Dans le domaine de la santé publique, Pierre Ménéton, là aussi, on a affaire à des lobbies. Hein. Vous y êtes confronté directement avec le sel, par exemple.
Oui, on a même affaire qu'à ça, j'allais dire, hein, puisque quel que soit, à partir du moment où on s'intéresse à la santé de la population, à la protection de l'environnement, on va se heurter à des intérêts économiques, de toute façon. Hein. Donc, Si je peux poser une question à Francis Châteaureno, puisqu'il y en a dans
le profitez-en, absolument.
Parce que ça recoupe la vôtre aussi. J'ai jamais réussi à bien comprendre un chercheur de service public qui découvre dans son laboratoire qu'un produit vendu à grande échelle est nocif pour la santé. Est-ce que c'est un lanceur d'alerte?
Pourquoi vous posez la question finalement, permettons? C'est l'aspect service public qui vous fait vous poser la question?
Ah oui, tout à fait.
Mais
parce que si la réponse est oui, ça veut dire que tout chercheur de service public, de l'INSERM, du CNRS ou de l'INRA, sont des lanceurs d'alerte, en théorie, potentiels. La question à ce moment-là devient, pourquoi y en a-t-il si peu?
Alors, question très intéressante. Francis Châteaureno, vous répondez, permettons.
C'est une question que je me pose tous les jours en tant que chercheur. En fait, lancer une alerte, comme vous le savez, c'est une action qui vise à intéresser d'autres gens que le micro-monde dans lequel on est. Donc, le chercheur peut évidemment prendre cette place. Il n'est pas en soi lanceur d'alerte, puisqu'il produit des données, il produit des modèles, il produit des hypothèses, il produit du doute aussi. On pourra en reparler, parce qu'on a un problème. On a le problème de la transparence, on a le problème du doute. Ne pas douter, c'est quand même problématique. Or, il y a des trucs sur lesquels il faut arrêter de douter, parce que sinon on devient, par exemple, climato-sceptique, ou voilà, etc. On l'a vu sur l'amiante, hein, comment on fait traîner les dossiers en mettant du doute. Bon, c'est très compliqué. Et donc, le chercheur doit à un moment donné, sentir quand une question, en fait, touche des valeurs, touche des questions politiques, touche l'intérêt général. On reviendra sur cette notion qui est aussi très compliquée, et moi j'en veux beaucoup, la loi Sapin 2, d'être passée là-dessus très vite. Ouais. L'intérêt général, qui le définit? Mystère. Le préfet, le ministre, la Commission européenne, enfin bon. Et donc, voilà, le chercheur n'est pas le lanceur d'alerte en soi, mais il peut prendre cette place dès qu'il voit qu'un problème est dénié, oublié, maltraité, dont il détecte des conséquences qui peuvent avoir évidemment des conséquences négatives et des dommages parfois même locaux, hein, pas simplement, faut pas tout de suite imaginer la planète, hein, y a des alertes qui concernent en fait des localités, et c'est parfois très compliqué aussi, hein, autour d'une usine évidemment, mais autour d'un tas de choses. Et donc en fait, le chercheur n'est pas en soi lanceur d'alerte. Par contre, la question que vous posez, en fait, c'est une question de qu'est-ce que le service public de la recherche? Et qu'est-ce que l'indépendance du chercheur dans un monde où on pousse les chercheurs à devenir des entrepreneurs? Alors, il y a une définition noble de l'entrepreneur, on ne va pas revenir là-dessus, mais où, en fait, on mélange les genres, et où même, regardez aujourd'hui les programmes de l'ANR, de l'Agence nationale, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave, etc., qui vous poussent à faire des partenariats, et vous êtes mieux noté si vous collaborez avec le privé. Alors, le privé, c'est quoi? Effectivement, il n'y a pas que des méchants, il n'y a pas que des start-upistes obsédés à devenir milliardaires, etc. N'empêche qu'on mélange les genres, et effectivement, cette question de l'indépendance de la recherche devient de plus en plus sensible. Et alors, pourquoi il y en a si peu? Parce que il faut faire tourner les labos, il faut financer les doctorants, faut publier,
Vous avez quand même la réponse, Pierre Militant. Pourquoi il y en a si peu? Parce que c'est quand même une galère d'être un lanceur d'alerte. Quand même, c'est avant tout ça, non? Vous croyez pas? Quand vous avez commencé à dénoncer le problème du sel, vous imaginiez ce qui allait vous attendre ou pas, franchement?
Bon, ce qui m'est arrivé n'est pas non plus, c'est bien moins de ce qui est arrivé à d'autres personnes qui n'étaient pas dans le service public, hein, qui étaient plutôt dans d'autres cadres.
Oui, mais il faut avoir les nerfs solides quand même. Hein.
Oui, bon, il y a quelques petits inconvénients qui se manifestent, mais...
Vous êtes très calme quand même de nature. Hein.
Disons que a posteriori, ça ne m'a pas du tout étonné. Je pense que l'inverse aurait été étonnant, hein, puisque, encore une fois, dès que vous mettez en... Vous questionnez des intérêts économiques, vous allez provoquer un retour évidemment de ces intérêts. Si vous voulez, sur le terrain de la santé publique, il y a quand même quelque chose qui est récurrent, hein, et qui revient sur votre question sur le lobbying et le service public. Vous avez cité le médiator tout à l'heure, plomb, amiante, tabac, le sel, c'est exactement ce qui s'est produit, hein, également. Hein. Vous avez une situation, si vous avez une accumulation de connaissances, parfois sur des décennies, avec un état des connaissances évalué ensuite périodiquement par des expertises collectives, qui fournissent une connaissance qui est disponible à un moment donné, et il faut attendre des dizaines d'années pour que les pouvoirs publics se saisissent de cette connaissance. Alors évidemment, on y voit évidemment l'impact des lobbies, la compromission des pouvoirs publics, etc. Et donc, si vous voulez, à la limite, l'alerte essentielle pour moi, c'est de dénoncer cette situation-là. Pourquoi faut-il autant de temps pour prendre en compte des connaissances qui ont des impacts en santé publique. Mmh. Alors que des connaissances qui permettent de fabriquer un nouveau produit demain, ça, c'est pris immédiatement en compte. Mmh. Donc voilà, c'est une question.
Claire Nouvian.
Eh bien, non, mais quand je vous entends, d'abord, je suis ravie de vous rencontrer parce qu'on avait lu vos cas. Tout le monde connaît votre nom et on vous remercie de cette prise de conscience que vous avez permise. Je me dis que vous avez eu, il me semble, une chance, c'est que votre établissement de recherche est resté solidaire de votre démarche scientifique.
L'INSERM, il y a quand même eu des moments difficiles, hein, parce qu'ils ont regardé dans les moindres détails vos productions scientifique quand même, Pierre Ménéton. Hein.
Pour l'INSERM, c'est relativement rapide à résumer. Si vous voulez, j'ai bénéficié d'aucune entrave particulière dans ma recherche. Pas d'aide particulière non plus, d'ailleurs. Donc, une situation de neutralité à peu près parfaite, avec d'ailleurs une communication appropriée, un public. Hein, c'est-à-dire que, comme tout chercheur à l'INSERM, je bénéficie d'une totale liberté d'expression. Mmh. Voilà la position de l'organisme. Je suppose que c'est probablement la position du CNRS et de l'INRA également. Il faut dire aussi que la position de ces organismes est délicate. Au moment où nous avons commencé à communiquer sur ce problème santé publique, un autre chercheur de l'INSERM faisait, lui, du lobbying pour les producteurs de sel industriel. Donc, évidemment, pour l'INSERM, c'est un peu délicat d'avoir dans sa même institution des gens qui font à la fois du lobbying et d'autres... dénoncent le lobbying.
Bon. Claire Nouvian, je vous ai coupé la parole,
parce
pardonnez-moi.
Parce qu'on pense... On a quand même des cas de lanceurs d'alerte où en effet le vécu, quand vous parlez de votre vécu, vous restez souriant, ce qui est déjà la preuve que ça a dû être une longue traversée du cerf, parce que vous avez eu quand même des complications judiciaires, etc. Mais en effet, vous n'avez pas été viré, vous n'êtes pas retrouvé dans cette solitude, vous n'avez pas, voilà. Et quand je pense, ne serait-ce que André Chicolella, qui s'est retrouvé quand il a eu le cas des terres de glycol, il a quand même perdu son emploi.
Mais qui n'était pas dans un cadre public, qui était dans un cadre semi-public. Est différent. Justement.
Et pourtant, ça ne devrait pas l'être. Vous voyez, parce que vous posiez la question justement à M. Château-Renaud, c'est un chercheur qui dénonce justement un problème de santé publique, une menace pour notre santé collective. Pourquoi n'y a-t-il pas d'emblée une espèce de prise en charge immédiate? Il devrait rester dans son poste, être réintégré dans son poste s'il le perd, etc. Ce que, pour le coup, la loi Sapin permet maintenant, enfin, la loi Sapin 2 permet de faire.
Allez, on en discute dans un instant. On va justement répondre à cette question, Claire Nouvian, dans quelques minutes, puisqu'il y a également des messages des auditeurs en ce sens. On parle donc des lanceurs d'alerte.
Bon, quand notre cœur est bon, tout avec lui est bon, et c'est l'amour qui surveille. Bon. Il chante à la veine bleue, au rythme de ses boum, qui rit des boum à l'oreille. Tout est changé depuis, et la rue des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, il y a des matins douces, la mer, le soleil va paraître. Boum, l'ostre de jeu fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Changer de bruit et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas, y a des matins douces, la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre de jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Je n'entends que boum boum, ça fait toujours boum boum. Je n'entends que boum boum, ça fait toujours boum boum.
Blossom Diary avec Boom à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Et pour Claire Nouvian, c'est Bloom, cette association dont vous êtes la présidente. Et puis nos invités également, Pierre Ménéton, chercheur en santé publique à l'INSERM, et Francis Château-Renaud, sociologue, avec donc ce terme de lanceur d'alerte dont nous parlons cet après-midi, que vous avez importé donc en 1996. À quelle occasion d'ailleurs, Francis Château-Renaud ?
Écoutez, on avait un programme de recherche avec Luc Boltanski, qui est un sociologue assez connu, qui s'appelait Les Prophètes de Malheur. Et il faisait autre chose, il faisait un bouquin sur le capitalisme, et il m'a dit, je peux pas m'occuper de ça, est-ce que tu peux prendre en charge l'équipe? Donc je l'ai fait. Ça m'intéressait beaucoup, et on a interviewé en premier Henri Pezerat, à propos de l'amiante, qui revenait au centre des débats politiques. Et on a dit à Pezerat, voilà, on travaille sur les prophètes de malheur. Il m'a regardé de biais, il a dit, moi je suis un prophète de malheur. Enfin, on est rentré au labo en disant, C'est pas la bonne façon de nommer les choses. Alors, on connaissait les whistleblowers, qui est le terme anglo-saxon, traduit, ce qu'il faut toujours regarder le droit canadien, parce qu'ils traduisent dans les deux langues, et la dénonciation de whistleblower, c'est dénonciateur.
Ouais.
Imaginez que le terme dénonciateur en français n'a pas du tout la même connotation. Je me suis dit, il faut trouver autre chose, il faut trouver autre chose. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que font ces gens?
Donc, il y avait le choix entre prophète de malheur et dénonciateur, au
voilà.
départ.
Hein. Ouais,
c'est pas terrible.
Alors, j'ai un collègue à qui j'ai signé le premier bouquin, d'ailleurs, qui proposait capteur. Je trouve que c'était un peu techniciste comme truc. Mmh. Donc, en cherchant un peu, je me suis dit, ces gens lancent des alertes et surtout, ils les lancent. Ça veut dire que dans le lancement d'alerte, il y a le lanceur d'alerte et il y a l'alerte. Il y a quelque chose qui doit parcourir une certaine distance, hein, comme quelque chose qu'on lance, pour atteindre sa cible, ou en tout cas produire des effets.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant dans cette notion. Alors, c'est devenu une notion très vertueuse. C'est beaucoup mieux de dire je suis lanceur d'alerte que militant, par exemple.
Ou dénonciateur.
Ou dénonciateur, et, ou même expert. Ou, voilà. Donc, ça a pris, ça a pris. Et aujourd'hui, alors, tout le monde est lanceur d'alerte.
Alors, c'est ça. Parce que la sphère publique s'en est emparée. Hein.
Oui,
vraiment, c'est un
ça a pris 15 ans quand même. Hein.
Aujourd'hui, oui, c'est ça.
Là, j'ai toute l'histoire là.
Ouais. Ça a mis combien de temps vraiment à infuser?
En fait, il s'est passé en 2003, il y a eu plusieurs événements, notamment un événement organisé par Science Citoyenne, qui est une association de gens qui s'intéressent beaucoup aux sciences en société, etc. En particulier avec Jacques Testard,
Testard
etc. Et qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de la figure du lanceur d'alerte. Et en même temps, autour des questions de corruption, Transparency International et d'autres groupes se sont emparés de cette notion justement pour traduire whistleblower. Donc il y a eu une confusion entre les deux mouvements. Alors maintenant, moi, je suis relativement zen. J'ai pas la décontraction de Pierre Menton, mais enfin, je veux dire que ça soit whistleblower ou lanceur d'alerte, peu importe. Ce qui compte, c'est le processus d'alerte au fond. Et qu'est-ce qu'il produit et comment effectivement il permet de se saisir sérieusement d'enjeux qui intéressent l'intérêt général, le bien commun. Ou des valeurs universelles.
Alors, il y a beaucoup de témoignages sur le site de l'émission. Yves qui nous dit ceci, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le bâtiment, j'ai pu constater la grande corruption dans ce métier, notamment au niveau des marchés publics. J'ai moi-même essayé justement de faire entendre ce qui se passait. Au bout de 2 ans, j'ai distribué une lettre circulaire à tout le personnel de l'entreprise pour expliquer justement, personne n'était au courant. 2 heures après, montre en main, j'étais éjecté de l'entreprise par la sortie à l'arrière du bâtiment pour que personne ne se rende compte de mon départ. À l'époque, en 85, il n'y avait pas de notion de lanceur d'alerte. J'ai tenté trouver des canaux pour faire connaître tout ça, mais je n'ai jamais eu d'oreille attentive à mon propos. C'est finalement la difficulté, Pierre Ménéton, c'est d'être seul au départ contre quand même tout le monde, hein, ou contre beaucoup de monde.
Oui, ça dépend beaucoup des contextes locaux. Hein. Voilà. Par exemple, nous, lorsqu'on a communiqué sur le problème de l'excès de sel là, dans les années 2000, si vous voulez, le consensus scientifique international était déjà là. Hein.
Ouais.
Simplement, en France, effectivement, on avait un pays de 60 millions d'habitants où le problème n'existait pas, et voire il y avait même un lobbying qui allait dans l'autre sens. Alors évidemment, c'est ça qui nous a quand même interpellés. C'est-à-dire que, je veux dire, alors effectivement, hein, un collègue à moi, Joël Ménard, qui est un ancien directeur général de la santé, et moi-même, on a été les deux personnes qui sont intervenues majoritairement, c'est vrai qu'on n'a pas eu un déferlement de collègues venant supporter. Alors, mais il y a plein de raisons à ça. D'une part, les gens ne connaissent pas forcément le dossier. Hein. On est quand même surpris, par exemple, en France, on a
la méconnaissance. Hein.
Ah oui, France, on a un problème quand même très spécifique sur la santé publique et l'épidémiologie, c'est que par rapport aux pays anglo-saxons en particulier ou scandinaves, on a un déficit extrêmement important pour des raisons d'ailleurs que je ne connais pas dans le détail. Et donc, vous avez plein de dossiers de toxicologie ou de santé publique ou d'épidémiologie qui ne sont pas réellement connus par les scientifiques français. Et donc, on est obligé de se reposer sur des communications étrangères ou des choses comme ça. Et quand on veut s'exprimer sur le sujet, on est effectivement très seul parce qu'on n'a pas une communauté de même ne serait-ce que d'une douzaine de scientifiques en appui. Quoi.
Alors Claire Nouvian, on va quand même répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, peut-être à Francis Châteaurino. Pourquoi il n'y a pas d'emblée une protection quand même pour ces lanceurs d'alerte, hein?
Oui, et puis je pense justement, vous parliez de Transparency International. On avait interviewé dans l'émission Lanceurs d'alerte sur France Inter l'année dernière, Nicole-Marie Meyer qui a énormément œuvré pour que la loi Sapin 2, justement, soit la plus ambitieuse possible dans la définition du lanceur d'alerte, parce qu'on avait évidemment le cas d'Antoine Deltour, LuxLeaks, Raphaël Allais, etc. en tête, et elle-même a témoigné de sa propre expérience, parce que, vous savez, dans le code de procédure pénale, il y a l'article 40 qui dit qu'un fonctionnaire, un agent public, doit signaler au procureur de la République s'il est témoin, s'il voit passer des agissements qui sont de l'ordre du crime ou du délit. on doit le faire. Mais si on ne le fait pas, il n'y a aucune sanction. Donc, vous voyez, on se retrouve toujours dans cette solitude-là, mmh. en tant que lanceur d'alerte, au sens large, hein, parce que finalement, on a toujours une obligation morale qu'on peut se faire à soi-même, parce qu'elle peut être d'ordre déontologique, mais on n'a aucune obligation, parce qu'on n'a pas de sanction, par exemple, si on est un agent public et qu'on ne le fait pas. Et donc, la loi Sapin 2 donne un cadre de protection, de réintégration dans l'emploi, de protection, même le défenseur des droits donne une protection maintenant qui est inscrite dans la loi, et donc c'est une grande avancée, parce qu'il n'y en avait pas jusque-là qui était aussi clair. Puis ça réunit plein de textes qui permettaient, il y avait de la protection dans le milieu sanitaire, etc., santé publique, mais pas tellement. Donc ça c'est une avancée, mais on reste quand même face à une procédure qui permet de protéger, mais qui n'oblige pas à dénoncer, vous comprenez? Donc si vous êtes témoin d'agissement, par exemple ce monsieur qui parle du bâtiment, on sait tout ce que c'est quand même un milieu qui est corrompu. Nicole Marie-Meyer avait montré que dans les ambassades, ministère des Affaires étrangères, il y avait évidemment des écritures, des fausses écritures comptables, etc., du détournement de fonds. Ça existe, bien sûr. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Non. Là, on reste dans la solitude de ça, propre. On est face à son miroir. Est-ce qu'on se met dans cette énorme complication qui peut se terminer justement par des sanctions? Parfois, on peut être même déclassé dans sa notation d'agent public. Ou est-ce que, on ferme son clapet et la vie continue doucement, tranquillement?
Alors, Francis Chatterneau, il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Claire Nouvion, parce qu'il y a la loi Sapin 2 déjà, alors vous pourriez nous faire toute une émission là-dessus, avec vos déceptions en particulier. Alors, par quel point vous souhaitez répondre d'abord?
Je voudrais bien montrer qu'il y a, c'est pas important de fixer trop procéduralement ce que doit faire et dire un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qui est du droit, qui est des règles, c'est très bien et ça existe. Ce qu'il faut voir, c'est que ça doit ouvrir un processus public de discussion. Ça doit ouvrir une controverse d'experts s'il faut. C'est-à-dire que le problème doit surgir et doit sortir, doit être déconfiné, doit sortir des micro-mondes dans lesquels il est pris, si vous voulez. C'est ça qui compte. Et le problème de la loi Sapin 2, c'est qu'elle demande quand même aux personnes de d'abord déclarer le problème au supérieur hiérarchique, il y a marqué direct ou indirect.
Ouais, donc N+1, N+2, ensuite...
Voilà, qui vont évidemment se réjouir.
Ça va être graduel,
etc. Donc non seulement ça va être graduel, mais il y a un délai de réponse, tout ça est très formel, ce qui permet évidemment à ceux qui ont envie de bloquer le signal d'alerte ou de le contrer, de s'organiser. Or, ce qu'il faut, c'est arriver à créer une scène publique, en fait. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des violations du droit de ce point de vue-là. C'est-à-dire, il y aura des gens qui prendront des risques de ne pas être exactement dans la procédure attendue pour pouvoir le passer à des journalistes, par exemple, ou le passer sur les réseaux sociaux, ou créer un collectif. Hein, très souvent, des gens s'organisent en collectif. Et la chose à répondre aux personnes qui ont eu ce sentiment de solitude, c'est créer d'abord un mini-réseau de soutien. N'allez pas chercher le réseau après coup. C'est-à-dire, ne lancez pas une alerte sans avoir d'abord construit, en fait, un environnement de support. Des gens qui vous croient sur parole parce qu'ils vous connaissent, des gens qui vous amènent des informations, des gens qui peuvent vous dire, voilà l'état des connaissances dans ce domaine-là, etc. Commencez à circuler et on trouve toujours des portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a toujours ce risque, en fait, de dire, on va pas m'écouter, on va pas m'entendre, et fait de s'enfermer, en fait, dans un rapport de force, seul contre tous, qui est extrêmement, évidemment, destructeur. Et moi, j'ai vu des gens en larmes qui sont venus me voir. Bon, j'ai souvent pris l'exemple d'Anne-Marie Casteret parce que tout le monde l'a un peu oublié, c'est elle qui a lancé le sang contaminé.
C'est vrai.
Elle est venue 3 fois me voir et elle cherchait des noms de thérapeutes pour sortir de son affaire. Elle dormait plus la nuit 10 ans après.
C'est ça.
Elle est décédée en 2006 d'une maladie en plus orpheline très compliquée. Et c'est quelqu'un qui a énormément souffert de la manière dont elle a été traitée par les journalistes, par les médecins, etc.
Pierre Ménéton, vous voulez réagir.
Sur le problème de l'excès de sel, je signale que les journalistes, pour ce problème-là, ont joué un rôle essentiel. Hein. En particulier, donc, 2 journalistes d'investigation qui, à l'époque, travaillaient dans le magazine Le Point et qui ont rendu réellement public le problème, c'est-à-dire l'absence de prise en compte de ce problème de santé publique en France.
Sauf qu'il y a une formation aussi, j'imagine, pour le lanceur d'alerte qui n'a pas forcément l'habitude de faire face aussi aux médias. Parce que là, ça peut être très casse-gueule quand même, hein, dans le message à délivrer, Francis Chatterneau.
C'est très, très, très difficile d'être crédible quand on est plongé comme ça dans
l'espace public. Il faut avoir les épaules très, très, très larges.
Les fonctionnements, quoi.
Surtout que les médias ont quand même une propension à vouloir faire un petit peu à faire monter la sauce. Ouais. Et donc, effectivement, c'est pas facile de garder un discours réellement scientifique au travers des médias.
Irène Brokovich, grand nom, justement, aussi, de ce thème. Irine Brokovich, pardon, des lanceurs d'alerte. On va écouter un extrait de sa voix, puisqu'elle a inspiré ensuite le cinéma avec Julia Roberts. Écoutez.
Mai 93, 75 résidents de la ville californienne de Hinckley déposent une poursuite contre la Pacific Gas and Electric Corporation qui exploite une usine de pompage dans leur localité. Les plaignants accusent la compagnie de polluer leur eau potable au chrome 6, ce qui cause plusieurs maladies, dont des cancers, diverses défaillances, des problèmes d'infertilité, des maux de tête chroniques et des irritations. En première ligne de la bataille juridique se trouve Erin Brockovich. La femme de 32 ans et mère de 3 enfants travaille depuis peu pour le petit bureau d'avocats Masri et Vitito. Elle agit maintenant comme enquêteuse principale sur cette affaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur.
Je suis devenue tellement obsédée que je ne passais presque plus de temps avec mes enfants. Et ce n'est pas parce que je ne voulais pas. Je devais travailler, je voulais aider ces gens.
Elle vivait pratiquement ici. Elle et Edward venaient constamment. Erin emmenait ses enfants. Elle savait qu'elle devait poursuivre son travail parce que c'était trop important.
Voilà, c'était en 1993 en l'occurrence. Grande figure, Francis Chateaurenault, là aussi. Hein.
Ah oui, très grande figure aussi. Enfin, les figures ne manquent pas. Hein. Ouais. On peut partir sur Edward Snowden, on pourrait prendre Irène Frachon. Hein,
ouais. Mais là, on est en 93 quand même.
On est en 80, mais il y a toujours eu des gens qui ont pris cette place hein, dans l'histoire. On retrouvera toujours des lanceurs d'alerte très très antérieurs. C'est pas un problème d'existence du phénomène. C'est plus la manière dont aujourd'hui il est effectivement constitué publiquement avec des catégories juridiques, des procédures et puis des médias qui se sont réagencés autrement. Ça pose des questions très intéressantes aussi sur la circulation des récits, sur la manière dont les récits sont repris, sont deviennent crédibles ou pas pour les autres. Et là, il y aura toujours des problèmes. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait de pacte si vous voulez. Voilà, vous appliquez telle procédure, vous allez obtenir des résultats tout de suite. Le traitement d'alerte existe déjà dans toutes les organisations, ont des systèmes d'alerte, si vous voulez, et avec des capteurs, des systèmes de vigilance, etc. Là, on s'agit toujours d'un débordement. On a affaire toujours à quelque chose qui déborde, qui oblige à sortir des routines, qui oblige à remettre en question des fonctionnements, qui évidemment pointe du doigt des intérêts, des pouvoirs, et donc forcément crée un problème public au sens large du terme, et donc un combat forcément. Donc il y a toujours cette dimension qui est présente dans le lancement d'alerte, de l'ouverture d'un processus conflictuel.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr.
Harry Marley. Harry Marley. Harry Marley. Harry Marley. Harry Marley. Divine intervention. Jehovah walked on water. Grandma raised us up a pension. Mama working extra. Papa, he no even make the effort. Except for when he walked away and left. Now I'm taller with my head up. I can stand on my own too now. Grudges that I carry make my leg hurt. I hope my dragon ain't too loud. My face will tell you that I'm fed up. Try to move but I cannot. Cross roads, sashy knees and elbows. Had granny feet blistered from walking these hell roads. Just so you know, just so you know. His wings are growing for me, Lord. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh, oh. Carry my way. Carry my way. In a weird slip, I'm a man now, innit? Same shit, just a dead shit. I'm a man now, innit? At least I kept my mind on my vision. But now I see me how they did it. Either use the downs as my pivot or drown with it. And so I turned all my demons to a sound, spitting image of my doubt, spitting image of my fear. Only through them prayers, so quiet when I hear. I tell you when you're down, man, don't nobody care. Watch him jump ship when you're finally up in the anchor. His wings are growing for me alone. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh,
yeah. Carry me, carry my way.
Mama, Everything is recorded. Carry me à l'instant.
La tête au carré.
Voilà, et le débat continue même hors antenne avec mes invités Francis Château-Renaud, Claire Nouvion, Pierre Ménéton pour parler des lanceurs d'alerte. Ça a même été une émission l'été dernier sur France Inter, Claire Nouvion, que vous avez animée. Et parmi évidemment vos invités, Irène Frachon qui a dénoncé le scandale du Mediator. Et on l'écoute dans un extrait tout à fait particulier où elle évoque la puissance de frappe aussi du laboratoire Servier contre lequel elle est partie en guerre.
Ces catégories de délinquants qui ont énormément d'argent utilisent des cabinets d'avocats pénalistes virtuoses pour leur demander d'asphyxier littéralement la justice par des contestations multiples et utiliser toutes les ficelles légales des droits de la défense. Mais bien évidemment, le laboratoire Servier, qui a une trésorerie de plusieurs milliards d'euros, il les dépense non pas à indemniser les victimes, puisqu'il conteste le moindre centime d'indemnisation, mais il déverse sans compter des millions d'euros pour que des dizaines d'avocats à temps plein utilisent ces moyens de la défense de manière complètement perverse. Mais on ne peut rien y faire. On est ligoté par les droits de la défense.
Voilà les mots d'Irène Frachon. C'était en août 2017 à votre micro, justement, Claire Nouvion, sur France Inter. Un commentaire sur les propos d'Irène Frachon, sur l'après, finalement, de la diffusion de l'émission.
Oui, parce que quand même, on apprend des tas de choses en donnant justement la parole à Irène Frachon, que tout le monde connaît. En plus, un film a été fait sur elle. Mais, comme vous disiez, on pourra en citer tant d'autres. Mais Irène Frachon a symbolisé, incarné ce combat. Et bien, après cette émission et la diffusion, donc, vous savez, juste quelques semaines avant l'émission, le parquet avait renvoyé Servier, les laboratoires Servier en correctionnel. Donc, ça y est, on était enfin, cette asphyxie, ces espèces de procédures bâillon, etc., qu'elle décrivait, et commençait à se clarifier. Et bien, après l'émission, les laboratoires Servier m'ont contacté et m'ont proposé de rencontrer le PDG du laboratoire Servier. Mais j'ai dit, mais je ne suis personne. Passez votre chemin. Enfin, pourquoi moi? Et en fait, ils proposaient, donc je pense qu'il y avait un ciblage un peu systématique de tous ceux qui prenaient la parole ou qui, sur les laboratoires Servier, et qui donnaient la parole à Irène Frachon pour nous expliquer vraiment la réalité. Et j'ai trouvé ça quand même assez gonflé. Donc j'avais conservé le mail en me disant voilà comment ça se passe, parce que nous de notre côté Blum, on voit ça quand on révèle quelque chose, on voit bien qu'il y a tout de suite une espèce de contre-feu qui est orchestré, hein. C'est des méthodes la Russie connaît bien, hein. Ça c'est, ils créent de la contre-vérité en permanence, et on voit qu'en fait ces industriels etc. utilisent les mêmes armes. Et donc voilà, je pense que ça méritait d'être raconté.
Ouais, les messages des auditeurs. Véronique nous dit c'est agaçant d'entendre que d'être dans la fonction publique protège. J'ai lancé à partir de 2009 des actions au niveau européen et international contre la contrefaçon et la fraude des œuvres d'art, pour la protection du patrimoine. L'opposition de l'administration en France et sa collusion avec des marchands corrompus font que je suis depuis 2014 sans poste. Pierre Ménéton, une réponse?
Ah oui, mais ça, que des situations comme ça puissent exister, je n'en doute pas. Mais alors, ça pose la question du service public, justement. À faire réfléchir, quoi, les auditeurs.
Dominique demande, pouvez-vous parler des conséquences de la loi sur le secret des affaires sur les lanceurs d'alerte, Francis Château-Renaud?
C'est évidemment un contre-feu. C'est un contre-feu organisé par le législateur, entre guillemets, c'est-à-dire actuellement la majorité au pouvoir, qui consiste précisément à sécuriser les entreprises qui se trouvent de plus en plus vulnérabilisées, entre guillemets, par les leaks, justement, les fuites, etc. Et donc, d'un côté, on va essayer de personnaliser le processus d'alerte en donnant des protections, mais à condition que ça soit vraiment dans un ordre procédural très très particulier. Donc, effectivement, sur certains cas, ça c'est une avancée, mais sur plein d'autres, ça va être un problème. Et de l'autre, on va en fait remettre de l'opacité, du secret, de la protection sur des données qui peuvent se révéler être des données décisives. D'ailleurs, avec le secret des affaires, je pense que l'affaire qui avait concernait Pierre, aurait peut-être changé d'allure, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des recours juridiques peut-être différents. Je sais pas, faut voir. Alors, comme toujours, ces droits, ces lois, il faut voir l'usage. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un droit qui reste jurisprudentiel largement, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de décisions qui vont venir, qui vont mettre du temps. Et moi, ce qui me choque beaucoup, c'est de dire c'est bon, il y a une protection. Et donc ça va. Non, parce que aller au procès, se farcir des procédures judiciaires pendant des années, c'est une épreuve en soi, c'est-à-dire qu'on fait porter sur les personnes en fait quelque chose de plus, un fardeau supplémentaire à celui qu'ils avaient, qui était simplement de signaler quelque chose. Donc moi j'étais pour une commission des alertes
qui reçoivent les gens, qui les écoutent et qui après fassent le travail de répartition. C'était la loi Blandin 2013 qui prévoyait ça et qui a été un peu cassée, mutilée des fêtes parce que ça gênait beaucoup effectivement ces questions
de contre-feu. C'est une maison des lanceurs d'alerte là qui est en...
Alors la maison des lanceurs d'alerte, c'est une initiative qui vient d'associations et de porteurs de ces questions-là, notamment en sciences citoyennes d'ailleurs. C'est pour que les gens puissent venir s'exprimer et trouver un espace dans lequel ils peuvent avoir au moins une écoute. Ça va pas forcément être facile à gérer parce qu'évidemment peuvent se glisser dans ce processus toutes sortes de plaintes, d'inquiétudes, et il va falloir apprendre à gérer ça. Donc bon courage.
Alors moi, je pense Transparency, typiquement ils ont déjà des tas de signalements qui leur arrivent et ils doivent conseiller déjà, ils font ça, donc ils sont aussi partie prenante de cette maison des lanceurs d'alerte avec Sciences Citoyennes et puis d'autres assos. Oui. Mais ils sont habitués en effet à trier le bon grain de livret parce que on est obligé de faire ce travail là parce qu'on peut pas il y a de tout là-dedans. Il y a de la vengeance, il y a des mythomanes, il y a de tout. Hein. Voilà, c'est l'humanité. Donc, il y a
Pierre
un
Ménéton,
gros travail.
Vous souhaitiez réagir à Francis Chateaureno?
Oui, je pense que ce qui est important de rappeler, enfin, en tout cas en ce qui concerne le domaine scientifique hein, et la santé publique, c'est que c'est quand même fondamentalement des démarches collectives hein, et non pas des démarches individuelles. Ça, c'est vrai de la recherche, c'est vrai de l'expertise et c'est vrai évidemment de tout ce qu'il y a autour. Et donc, c'est vrai que peut-être l'ennui du lanceur d'alerte, c'est c'est quelqu'un qui est beaucoup trop personnifié, quoi, parce que le lanceur d'alerte, en général, ne crée pas tout seul la connaissance qu'il y a derrière l'alerte.
C'est un problème, la personnification des lanceurs d'alerte, selon vous, Francis Chateaureno?
C'est le paradoxe d'un monde complexe. C'est-à-dire avoir des grandes figures, c'est important, parce que ça crée des précédents, ça crée des exemples, et ça donne en fait des modèles. Le problème, c'est que c'est fondamentalement un processus collectif, l'alerte. C'est-à-dire que s'il y a alerte, ça veut dire que ça concerne en fait le lien social et les formes
Sauf
de vie.
Sauf que sans grande figure, personne ne va au combat quand même. C'est des individus très isolés quand
Mais
même.
Mais même Snowden, quand on regarde par exemple le très beau documentaire fait d'ailleurs pendant l'affaire Snowden, il y a tout un réseau qui est déjà à l'œuvre. Donc en fait, les acteurs se déplacent dans des mondes, dans des réseaux, dans des discussions, des conversations. Et donc on n'est jamais totalement seul. Le fait de le construire seul contre tous, ça veut dire déjà un échec du processus. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. Et du coup, il faut faire attention que les personnes ne collent pas à l'alerte complètement. Il doit y avoir séparation. Dans le lanceur d'alerte, c'est comme quand vous lancez un satellite, le lanceur se sépare de...
Ben si. À l'image est bonne.
Snowden, évidemment, on est dans le domaine de la sécurité, du secret défense. D'ailleurs, ce que la loi Sapin 2 a bien, on a vraiment sorti du périmètre. Le message étant très clair, pas de Snowden à la française, parce que on fait partie des États qui ont organisé et orchestré une énorme surveillance de masse des citoyens. Donc, évidemment, on a des lois liberticides qui passent par derrière pour légitimer cette façon de rogner en fait sur nos libertés individuelles. Mais juste, je vous rappelle que Panama Papers, le lanceur d'alerte est resté anonyme. John Doe, hein, il s'est appelé l'homme de la rue. Il a fait un très très beau témoignage. Il nous a laissé un manifeste dont on peut s'inspirer, qu'il faut relire, hein, parce qu'il parle de cet effondrement déontologique des cabinets d'avocats qui orchestrent l'évasion fiscale. Donc il faut lire ça. Il est resté anonyme. Donc typiquement, voilà un domaine, cette évasion fiscale qui a... Denis Robert nous avait alerté hein, avec Clearstream. Vous avez dit la corruption est endémique. L'évasion fiscale, c'est un problème endémique. C'est en train de mettre à mal nos démocraties. Eh bien, on voit bien que des années plus tard, Panama Papers, mais sauf que John Doe, le lanceur d'alerte des Panama Papers, il a pris la leçon en voyant ce qui arrivait au Snowden et consorts. Snowden, qui savait très bien ce qu'il faisait, parce que je vous rappelle que Mitchell et Martin, deux agents aussi de la NSA, dans les années 1960, sont quand même partis, se sont exilés en Russie. On savait que quand on touchait au secret défense aux États-Unis ou où que ce soit, on se condamne à l'exil.
Francis Chateaureno, très vite, très vite.
Le secret défense, ça commence où, ça finit où? Mon travail sur les questions nucléaires. Eh bien, figurez-vous, pour avoir certaines données techniques sur les centrales nucléaires, on est déjà dans le secret défense.
Bien sûr.
Or, on a bien vu avec l'affaire découverte de Flamanville, de l'EPR, etc., qu'à un moment donné, même les services qui sont censés faire de la vigilance sur des techniques quand même, faire forger le creusot, etc., et faire les queues de réacteurs, là, il y avait des défaillances. Il a fallu 10 ans pour avoir l'information. Donc, on est dans des zones extrêmement... donc, il faudra des gens pour sauter dans l'arène et faire sauter ça.
Chateaureno, quand Nicolas Hulot dénonce les lobbies au sein du pouvoir, est-ce qu'il est un lanceur d'alerte?
Non, parce que il est parfaitement au parfum de tout ça depuis très longtemps. C'est lobby contre lobby, c'est des rapports de force, des alliances, des coalitions qui à un moment donné se fissurent, parce qu'effectivement il porte un certain nombre de causes que je partage en tant que citoyen évidemment, les enjeux environnementaux. Et on le sait, en plus les alertes sur le climat n'arrêtent pas de se multiplier. Et là il est simplement, c'est une déception, et on savait depuis. Donc les lobbies deviennent effectivement les porteurs de ce qui lui arrive.
Merci beaucoup à tous les trois. Et puis donc on regardera cette loi qui va être discutée sur la taxe sur le sel. Ce serait une première mondiale.
Première mondiale.
Pierre Menton, et probablement grâce à vous. Donc on va suivre ça. Ah bah si, certainement. Et ce sera dans les semaines qui viennent. Au bord de l'irréversible sociologie pragmatique des transformations. C'est un livre que vous signez, Francis Château-Renaud, aux éditions Petra. Merci beaucoup à tous. Merci Claire Nouvian.
Merci.
À bientôt.